Il est 15h36 à la pendule de Canal Sud 92,2 MHz. Nous sommes le mercredi 23 janvier 2019. C'est l'heure de la revue de presse sur l'actualité internationale. Planète Rouge, c'est tous les mercredis en 15, ou presque. Notre dernière émission avait eu lieu fin décembre. Nous vous souhaitons, chers écouteurs, chères écoutrices, une merveilleuse année 2019, faite de joie, bonheur, mais aussi lutte et combat de classe. Au sommaire aujourd'hui, les fosses méditerranéennes, l'argent, c'est important et je vous en souhaite plein pour l'année 2019. Nous irons ensuite à Hong Kong, en Corée du Sud, en Côte d'Ivoire, au Congo, surnommé Congo démocratique, je ne sais plus quoi, puis en Turquie et en Arabie Saoudite, pour finir, en Angleterre. On démarre cette revue de presse sur un fait dramatique qui s'est déroulé en Méditerranée. En fait, il ne s'agit pas d'un, mais de la récurrence de noyades de personnes qui tentent de rejoindre l'Europe en montant dans des embarcations fragiles fournies par des passeurs peu scrupuleux. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, j'ai bien dit 2015, un bateau de migrants fait naufrage en Méditerranée, lors duquel périssent près de 800 personnes, écrivait la rédaction du Huffington Post ce samedi. Parmi les victimes, un jeune Malien de 14 ans. Celui-ci porte sur lui un document qui en dit long sur ses espoirs pour sa nouvelle vie qu'il imagine en Europe. À l'intérieur de sa veste a été cousu l'un de ses bulletins scolaires. Cette histoire touchante n'est dévoilée qu'aujourd'hui, comme l'ont rapporté ce samedi 19 janvier les journaux 20 minutes et rtbf.belgique, après la publication du livre d'une médecin légiste italienne, Cristina Cattaneo, naufragée sans visage. Celle-ci a réussi à identifier le corps du jeune migrant. Dans son livre, Cristina Cattaneo avance l'hypothèse suivante après la découverte de ce bulletin de notes. Nous pensons tous la même chose, j'en suis sûr. Avec quelles attentes ce jeune adolescent du Mali avait, avec tant de soin, caché ce document si précieux pour son futur, qui montrait ses qualités, ses aptitudes scolaires, dont il pensait qu'il lui ouvrirait les portes d'une école italienne ou européenne, et désormais réduit à quelques pages imbibées d'eau. Une histoire qui nous laisse sans voix. En 2018, 2275 migrants sont morts ou portés disparus en tentant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. L'année dernière, le premier pays d'origine des migrants était la Guinée, avec 13 068 personnes, suivi du Maroc, 12 745, et du Mali, 10 347. Plus près de nous, à moins d'un mois, plus de 250 personnes sont mortes noyées en cherchant à joindre l'Europe. Je n'aurai bientôt plus la force de vous parler, je gèle, aidez-nous, je vous en supplie. Ce sont les derniers mots reçus dimanche soir sur le dispositif Alarm Phone de l'ONG internationale Watch the Med. Au bout du fil, une des 100 personnes repérées au large de Misrata, en Libye, à bord d'un canot en train de sombrer. Explication donnée par Émilien Urbache dans l'Humanité de hier mardi. Cela fait plusieurs heures que les autorités italiennes et maltaises sont informées du naufrage en cours. Mais, selon le protocole, les deux centres de coordination maritime ont envoyé la balle aux gardes-côtes libyens. Lesquels tarderont à venir récupérer les réfugiés flottant encore? Mais une centaine avait été heureusement déjà sauvée par un cargo, un pavillon donc sud-américain, qui recevra immédiatement l'ordre de les débarquer en Libye. Plus tôt dans le week-end, le Haut Commissariat aux réfugiés déplorait la disparition de 170 personnes dans deux naufrages.
Solve all of my frustration. You know that I makes me do things I thought I'd never do. You know that I'll be good for.
C'était Good For You d'un groupe qui s'intitule We Are The Ocean dans l'album Arc à RK. En ces temps de protestation sur le pouvoir d'achat, il serait honnête d'affirmer que de l'argent, il y en a. Il y en a plein, il y en a considérablement, mais seulement dans les poches de quelques-uns. L'ONG Oxfam publie son rapport annuel sur l'état des inégalités mondiales qui détaille leur emballement croissant. Et renvoie les dirigeants face à leurs responsabilités en pointant une fiscalité injuste qui manque à son devoir de redistribution, en diminuant les contributions des entreprises et des plus fortunés. Le rapport intitulé « Services publics ou fortune privée » et dont Libération a eu la primauté regorge de chiffres tous plus frappants les uns que les autres. Certains déséquilibres sont si marqués qu'aucune échelle ne semble plus pouvoir les mesurer, écrivait Nelly Didelot lundi. Ainsi, 1% seulement de la fortune de Jeff Bezos, patron d'Amazon et homme le plus riche du monde, avoisine le budget de la santé de l'Éthiopie et de ses 105 millions d'habitants. Aussi abstrait ou vertigineux que cela puisse paraître, ces inégalités ne sont pas que des chiffres. Elles pèsent lourdement sur la vie de millions de personnes. Parfois même, elles tuent. Au Népal, un enfant pauvre est 3 fois plus susceptible de mourir avant ses 5 ans qu'un enfant d'une famille riche, faute de véritables services publics sanitaires. La concentration des richesses entre quelques mains, en hausse depuis 2009, a continué à augmenter l'an passé. 26 personnes possèdent désormais autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,8 milliards de personnes. Ils étaient 43 en 2017. Ces inégalités ne sont pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques, martèle Oxfam. Une fiscalité progressive destinée à financer des services publics universels et gratuits serait tout à fait apte à réduire les écarts de richesse. Dans les années 2000, les inégalités de revenus ont connu un recul phénoménal en Amérique latine grâce à des États qui ont augmenté les impôts pour les plus riches, relever les salaires minimums et investir dans la santé et l'éducation, rappelle le rapport. Si les domaines de la santé et de l'éducation sont primordiaux, tous les services publics, universels et gratuits, réduisent les inégalités. Ainsi, un raccordement au réseau d'eau courante va bénéficier à tous, mais plus particulièrement aux femmes à qui incombent les corvées d'eau. Déchargées de ces heures de travail non rémunérées, les filles auront le temps d'aller à l'école et leur mère l'opportunité de se consacrer à d'autres tâches qui pourront leur fournir un revenu. L'efficacité des services publics dans la réduction des inégalités posées reste la question de leur financement. Les taux maximums d'impôt sur le revenu, les successions et les sociétés ont diminué dans de nombreux pays, rappelle le rapport. Si la tendance était inversée, la plupart des États auraient des ressources suffisantes pour fournir des services publics. Aux États-Unis, par exemple, le taux maximum d'impôt sur le revenu des particuliers était de 70% en 1980, alors qu'il n'est plus aujourd'hui que de 37%. Et ce sont les plus riches qui ont bénéficié de ces baisses généralisées. Pour chaque dollar de recette fiscale, en moyenne seulement 4 cents proviennent de la fiscalité sur la fortune, interpelle le rapport. Les impôts tels qu'ils sont répartis aujourd'hui n'épargnent pas seulement les riches. Il pénalise aussi les pauvres. Depuis la crise de 2008, le poids de la fiscalité a été transféré des entreprises vers les ménages. L'augmentation des recettes fiscales est attribuable aux impôts sur les salaires et aux taxes sur la consommation, comme la TVA, précise Oxfam. Ces taxes sur la consommation, identiques pour tous, aggravent les inégalités puisqu'elles pèsent plus lourdement sur le budget des moins riches. Si on combine les différents impôts, On en arrive, dans certains pays comme au Royaume-Uni, à des déséquilibres tels que les 10% les plus pauvres paient proportionnellement plus que les 10% les plus riches. Troisième fortune mondiale, le milliardaire américain Warren Buffett a lui-même souligné que son taux d'imposition reste moins élevé que celui de sa secrétaire. Pour les gouvernements qui seraient décidés à agir contre les inégalités, la marge de manœuvre est immense, concluait Nelly Didelot. Eh bien, avec une certaine naïveté, je serais-on tenté d'ajouter. Une histoire, plusieurs histoires dans ce Libération de lundi. C'est à Hong Kong, un nom mythique qui nous fait rêver de vacances merveilleuses, mais la réalité pour les gens qui habitent sur place est cruelle. Kelly, par exemple, n'a ni père ni loisir et elle ne mange pas à sa faim. La fillette Fluette, aux manches trop courtes, nourrit pourtant l'ambition de devenir une femme riche. Et ça la fait rire car elle sait qu'il lui faudra étudier et travailler très très dur pour accomplir son rêve. À 10 ans, elle vit sous le seuil de pauvreté à Hong Kong, comme un enfant sur 5 dans cette ville où, selon Oxfam, les inégalités sont parmi les plus extrêmes au monde et se creusent depuis 15 ans. Ici, magasins de luxe et magnats milliardaires côtoient sans-abri et vieillards ramasseurs de cartons, écrivait Rosa Nostra. En 2016, le revenu médian moyen par ménage du plus haut décile, c'est-à-dire les 10% les plus riches, était 44 fois plus important que celui du plus bas décile, les 10% les plus pauvres. En 2006, c'était seulement 34 fois plus. La richesse est fortement concentrée. Les particuliers disposant de plus de 20 millions d'euros possèdent à eux seuls 47% des richesses. Et elles se montrent. Sacs Dior, talons Louboutin et bracelets Love de Cartier font partie intégrante du décor. Les Tesla sont à tous les coins de rue, au point que leur fondateur, Elon Musk, a jusqu'à récemment considéré Hong Kong comme la ville balise pour ses produits, car elle comptait par habitant le plus grand nombre de ses voitures électriques haut de gamme. Même les chiens mènent ici une vie en or, dorlotée et manucurée par des propriétaires qui n'hésitent pas à payer rubis sur l'ongle pour des toilettages au lait ou des soins à l'oxygénothérapie. La pauvreté grandissante se fait très discrète. Elle touche 1,38 million de personnes, soit 20,1% quand même de la population hongkongaise. Don Kelly. Abandonnée à la naissance par son père, la fillette survit dans le quartier saturé de Mong Kok. Mong Kok, c'est en face de l'île de Hong Kong, avec sa mère Jojo, 40 ans. Chinoise du continent, en situation irrégulière. À Hong Kong, le marché immobilier est parmi les plus inabordables au monde. Des places de parking s'arrachent pour 250 000 euros. Des appartements sur l'emblématique pic de l'île Victoria pour 14 000 euros le mètre carré. En fait, c'est 140 000 euros. Il y a eu un rectificatif dans Libération de mardi. Donc 140 000 euros le mètre carré, c'est pas mal. Kelly et sa mère vivent, elles, dans un studio oppressant, 9 mètres carrés de boîtes et de sacs amoncelés autour d'un lit et d'une table. Elle dispose de 6 000 $ hongkongais, c'est-à-dire 660 euros par mois, donnés par un oncle. Une fois décomptés les 4 200 $ de loyer, 200 $, donc c'est des dollars Hong Kong, 200 $ d'électricité et 100 $ de téléphone, il leur reste 1 500 $, c'est-à-dire 166 euros. Pas suffisamment pour 3 repas par jour, ni pour l'uniforme de l'école, ni pour l'ordinateur, ni pour une consultation médicale. Il ne leur reste rien, sauf une vie de galère, à grappiller d'ONG en banques alimentaires, quelques vêtements et aliments. Sentiment d'insécurité et angoisse sur l'avenir alimente le quotidien comme près de la moitié des foyers défavorisés, selon une étude menée en 2017 par la Fondation Caritas. Le gouvernement n'aide pas correctement les gens et met énormément de restrictions et de conditions pour l'obtention des aides sociales, regrette Kevin Lee de Caritas. Les salariés peu qualifiés doivent travailler plus de 10 heures par jour, sans pour autant s'en sortir et encore moins s'économiser. Ils placent donc beaucoup d'espoir dans la réussite de leurs enfants. Beaucoup d'espoir, beaucoup trop.
Sua
C'était Nazinki Makobo de Niboba dans l'album Empire Bakuba, Bakuba Show. Un excellent album de musique africaine. On ira en Afrique tout à l'heure. Pour l'instant, on reste en Asie avec la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a ceci d'extraordinaire. Un simple sachet de nouilles instantanées peut porter la paix comme la révolte sociale. Depuis la mort d'un ouvrier le 11 décembre 2018 dans une centrale à charbon, l'empire du plat préparé et déshydraté est en ébullition, racontait Nina Sankari dans L'Humanité de mardi dernier. Et ce pays, où la consommation mondiale de ramyeon est la plus importante au monde avec 74,1 paquets par personne et par an, pourrait bien se détourner peu à peu de ces pâtes bon marché, désormais symbole de précarité et d'exploitation. À l'instar de ses compatriotes, Kim Jong-kyun en était un grand consommateur. C'est en réalité le seul repas que son maigre salaire lui permettait de s'offrir. Après son décès, les policiers ont ainsi retrouvé dans son sac à dos une lampe de poche cassée et trois sachets de ramyeon. Âgé de 24 ans, l'intérimaire est mort, aspiré dans un tapis à charbon qu'il a décapité. Personne n'est venu à son secours. Par souci d'économie, le patronat de la Korea Western Power Company Limited, qui s'appelle la Kowepo, préfère ne pas constituer d'équipe. Le jeune ouvrier est pourtant le 15e à décéder dans cette centrale à charbon depuis 2010. Afin de ne pas verser d'indemnité, la Kowepo a omis de déclarer 4 des décès intervenus dans sa centrale. Kim restera-t-il un dommage collatéral ? Rien n'est moins sûr. Le jeune homme incarne désormais cette classe ouvrière sud-coréenne qui peine à sortir de sa condition. Kim faisait partie des 97% de Coréens qui, malgré les efforts, échouent au concours de la fonction publique et voient s'éloigner la perspective d'un emploi à vie. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes caracole à 9,4%, soit le plus haut niveau depuis 1999, la concurrence est reine et il n'est point de salut hors des diplômes. Kim a donc obtenu 2 licences d'ingénieur, mais n'a reçu que 3 heures de formation à la sécurité dans la centrale avant d'être envoyé à la mort. Et le tout pour un salaire de 1300 euros sans prestations sociales, avec lequel il a dû payer son casque et sa lampe de poche. Avec 1000 morts par an, la Corée du Sud possède le taux de mortalité au travail le plus élevé des pays de l'OCDE. 76% sont des intérimaires affectés à des postes dangereux qu'ils ne maîtrisent pas. En octobre, Kim participait à une campagne sur les réseaux sociaux. Muni d'une pancarte, il demandait à rencontrer le président Moon Jae-in, qui promettait, après son élection, de sécher les larmes des travailleurs précaires, afin d'évoquer l'abrogation des lois injustes et l'extension des contrats à durée indéterminée. La mort de ce jeune travailleur intérimaire a plongé notre peuple dans une profonde tristesse et a révélé la véritable nature de cette société, a fustigé Na Do-won, l'un des responsables du Parti travailliste sud-coréen. Fin décembre, des parlementaires de gauche sont parvenus à faire adopter un amendement à la loi sur la sécurité industrielle portant justement le nom de Kim Jong-kyun, visant à responsabiliser les entreprises et à améliorer les conditions de travail des intérimaires. La droite s'est empressée de condamner une loi criminalisant les patrons et susceptible de nuire à l'activité industrielle. Kim Mi-suk, la mère du jeune homme, demande pour sa part une inspection indépendante permettant de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Un mouvement s'est depuis levé dans l'ensemble du pays demandant la fin du recours à la sous-traitance pour les emplois à risque. À l'appel de la Confédération coréenne des syndicats, KCTU, des rassemblements hebdomadaires sont organisés. Également portés par la nouvelle génération, la contestation a donc pris pour symbole les fameux ramyeon. À Séoul, l'hôtel dédié à Kim présente un portrait, des bougies, des chrysanthèmes et, moins solennel, un bol de nouilles instantanées. Ces pâtes, dont le prix oscille entre 800 et 1200 won, c'est-à-dire de 0,62 à 0,93 euros, sont considérées comme un trésor de nutriments pour les pauvres, selon les chercheurs Jung Ho Park et Sun Woong Park. La littérature et le cinéma sud-coréen regorgent ainsi de références au ramyeon, ces soupes où la viande n'est qu'illusion. Nés au Japon, ces nouilles instantanées ont débarqué dans la péninsule en 1936. Après la guerre de Corée, les États-Unis profitent de la faim qui étreint leurs alliés pour écouler leur surproduction de blé et le gouvernement d'encourager la fabrication de ce plat du pauvre. Au cours des années 2000, dans le cadre de la politique du rayon de soleil, le produit devient même un instrument de coopération entre Séoul et Pyongyang. Des cargos chargés de millions de sachets sont affrétés. Dans la zone industrielle de Kaesong, située en Corée du Nord, les entreprises du Sud ont, elles aussi, distribué des nouilles instantanées pour compenser l'interdiction de payer les heures supplémentaires des travailleurs nord-coréens en espèces. Une astuce qui leur permet de liquider la surproduction tout en limitant les dépenses salariales, eh bien, les profits d'abord.